Bon, ici, en fait, dans cette petite partie-là, je vais d'abord rapidement vous présenter la façon dont les économistes perçoivent de manière générale, hein, les particularités ou les spécificités du marché du travail dans les pays d'Afrique subsaharienne. Et puis, par extension, nous verrons que ces particularités, elles façonnent, ou elles décrivent, ou elles caractérisent un marché du travail que nous considérons massivement informel, même si on va revenir donc sur ces questions de définition, etc. Et puis ensuite, on va vous montrer quelques. On va parler un peu des difficultés qu'on a déjà évoquées, j'irai assez vite du coup, mais les difficultés lorsqu'on souhaite étudier statistiquement ces activités ou ces emplois, les difficultés liées à l'identification de ces emplois ou de ces activités informelles et à la délimitation de celles-ci. Et puis toutes les difficultés qui sont liées à la mesure concrète de ces activités, c'est-à-dire de leur efficacité, de leur niveau de production, de leur capacité à créer des richesses, etc., etc. Et puis ensuite, on va vous présenter quelques petites caractéristiques économiques qui sont considérées comme étant particulièrement distinctives de ces activités informelles et qui sont des éléments qui pèsent beaucoup à la fois en particulier, pardon, sur leur dynamique, sur la dynamique de ces activités informelles. Et puis pour finir, on apportera quelques éléments qui permettent de décrire les grandes options de politique économique, de politique de l'emploi en quelque sorte, qui ont pu être mises en œuvre par les pouvoirs publics pour tenter de traiter la problématique de l'informel. Alors, dans un premier temps, donc, vraiment d'un point de vue assez, du point de vue des économistes, hein, je dirais le marché du travail d'abord, le marché du travail des pays d'Afrique subsaharienne présente des caractéristiques qui sont très particulières à l'étude. Bon, la première, très évidente, c'est le fait que ce marché du travail occupe une position absolument centrale dans la construction des revenus des ménages, tout simplement parce que les revenus des ménages se partagent entre les revenus du travail, les revenus de transfert, qu'ils soient privés, mais surtout des transferts publics, et puis les revenus du capital, et que manifestement, pour une immense majorité des ménages en Afrique subsaharienne, les revenus du travail constituent l'unique source de revenus en l'absence de revenus de transfert public généralisés et en l'absence, ou étant donné l'extrême rareté des revenus du capital. Donc, c'est directement un objet absolument central dans l'analyse des revenus des ménages. Quand on s'intéresse au marché du travail, avec vraiment une approche d'économiste en termes d'offres et de demandes, on constate qu'une particularité très forte de ce marché, c'est qu'il existe une très forte pression sur l'offre de travail, qui découle du fait que dans beaucoup de pays, la transition démographique soit encore inachevée, et qu'on ait donc des taux de croissance de la population importants, avec beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, une pression sur l'offre qui vient aussi de la pression migratoire des milieux ruraux vers les milieux urbains, et que donc sur ces marchés du travail, en particulier sur les marchés du travail urbain, on a de plus en plus d'offres de travail avec des individus qui sont non seulement de plus en plus nombreux, mais de plus en plus qualifiés. Et puis cette offre de plus en plus grande de travail, elle fait face à une demande de travail relativement atone, et même dans la faiblesse de la demande est assez persistante. Ça s'explique tout simplement par le niveau de pauvreté relativement élevé des ménages, de manière générale, le fait que dans beaucoup de pays, dans beaucoup des pays concernés, on n'est pas affaire à une. N'existe pas une classe moyenne installée, pérenne, fortement consommatrice de produits locaux, et puis que les ménages les plus aisés ont souvent une consommation très orientée vers les produits d'importation. Et puis cette faible demande, elle combine assez souvent à des difficultés récurrentes liées à la faiblesse ou aux défaillances des infrastructures physiques ou des infrastructures sociales. Et tout ça explique que finalement, les investisseurs, de manière générale, ont assez peu d'incitations à investir, que ce soit les investisseurs locaux ou étrangers, et qu'on ait par conséquent une assez grande rareté du capital physique, au sens tout simplement où il y a donc assez peu d'entreprises, assez peu d'usines, assez peu d'ateliers, d'entreprises formelles, entre guillemets, qui s'installent ici. Et par conséquent, dans une approche un peu économique, on a effectivement un très faible ratio capital-travail, on a une assez grande rareté du facteur capital par rapport à une assez grande abondance du facteur travail, ce qui génère donc des difficultés extrêmement importantes pour les travailleurs, des difficultés à obtenir un emploi productif qui puisse leur permettre de répondre aux besoins de leur ménage. Et donc, il n'y a pas d'emploi dans ces entreprises, il n'y a pas d'emploi formel pour tous, et ceci se combine avec l'absence d'un système de protection sociale généralisé, comme par exemple un système d'allocation chômage ou un quelconque système d'ailleurs de minima sociaux. Et ça implique une chose très importante, c'est que l'alternative à l'absence d'emploi productif ou à la rareté des emplois productifs, ce n'est pas le chômage comme dans les pays plus riches, mais l'alternative à l'absence d'emploi productif, eh bien, c'est le fait de trouver un emploi dans ses activités, au sein de ses activités informelles. Donc, soit d'occuper un emploi informel, soit de mettre en œuvre, de gérer, de créer une activité informelle. Et donc, l'idée, c'est vraiment cette combinaison du fait qu'un certain nombre, un très grand nombre d'individus soient à la fois dépourvus d'emploi formel et de protection sociale, qui fait que les travailleurs se trouvent bien souvent dans l'obligation d'exercer des emplois autogénérés, des emplois alternatifs autogénérés sur le marché du travail. Et donc, cette informalité ou l'économie informelle, elle va être évidemment extrêmement diversifiée, extrêmement multidimensionnelle. Elle a beaucoup de visages. On en a déjà parlé, on va retrouver des petits vendeurs de rue, mais aussi des tailleurs ou des coiffeurs itinérants, des gens qui recyclent, qui recherchent les matériaux recyclables, de la restauration de rue, des taxis illégaux, etc. etc. Mais de fait, face à une telle diversité, on en a un peu parlé déjà, une définition générale de ce que serait l'économie informelle est en débat, enfin, a donné lieu à des débats sans fin depuis les années 70, comme le disait Jean-Philippe tout à l'heure. Beaucoup, beaucoup d'économistes se sont penchés sur la question, parfois en collaboration d'ailleurs avec les sociologues, avec les politologues, etc. etc. Et finalement, on en est arrivé à des considérations extrêmement pragmatiques qui consistent à considérer que les activités informelles sont des activités qui sont des activités de petite échelle, de petite taille, et qui ne sont pas enregistrées officiellement. Je vais revenir sur ça dans un instant. Alors, même si c'est effectivement toutes ces activités sont très complexes à définir de manière exhaustive et puis surtout à délimiter, c'est-à-dire à distinguer des activités qu'on qualifierait alors de formelles, il est clair qu'elles constituent une part essentielle de l'activité économique, entre autres des villes africaines, mais aussi en milieu rural, comme on le disait tout à l'heure. Et ce qui apparaît pour nous, c'est qu'elles sont menées en dehors de tout cadre réglementaire. Elles s'exercent à très petite échelle et un élément important, c'est qu'elles ont pour finalité la création de revenus pour ceux qui conduisent ces activités. Du point de vue des économistes, c'est quelque chose de distinctif, puisqu'on considère en économie qu'une entreprise est une organisation dont la finalité est de générer des profits permettant de garantir sa pérennité et sa croissance via l'accumulation productive dans le temps, etc. Et on a affaire ici à des activités qui, pour nous, sont très particulières, puisque elles ont pour finalité uniquement de créer des revenus pour ceux qui les ont à la fois créés et qui les dirigent. Un autre élément important qui a été souligné, mais que je crois essentiel, c'est que, de manière générale, ces activités informelles contribuent assez peu à la création de ressources collectives, au sens où elles échappent assez largement à la fiscalité, aux fiscalités locales, même si ce n'est pas tout à fait vrai, mais de manière générale, elles échappent assez grandement aux systèmes fiscaux locaux. Si on essaie d'aller un tout petit peu plus loin dans la caractérisation finalement de ces activités informelles, du fait de l'extrême, et c'est pour ça tout à l'heure que je revenais sur la vulnérabilité, mais du fait de la rareté, l'extrême rareté du capital dans ces activités, les emplois qu'on y retrouve sont extrêmement peu productifs. Et donc, par extension, les revenus qui sont issus de ces emplois sont très souvent très faibles. Pas toujours, hein, on l'a dit, on y reviendra, mais la plupart du temps, ces revenus sont quand même très faibles et très irréguliers. Et ces problèmes-là, fondamentaux, sont souvent aggravés par des difficultés d'accès à tout un ensemble de services de base, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à un espace dédié pour pouvoir opérer ces activités, l'accès bien sûr au système bancaire qui va empêcher d'avoir des relations des transactions fiables, qui va empêcher d'accéder au crédit pour faire de l'investissement productif, qui va empêcher d'avoir accès à l'épargne, qui permet d'anticiper des risques futurs. Et du coup, tous ces éléments font qu'on perçoit quand même bien souvent ces activités et ces emplois informels comme étant exposés à une grande vulnérabilité et à une extrême flexibilité du travail. quoi qu'il en soit, elles constituent, et on l'a dit un peu tout à l'heure, ces activités informelles, finalement, elles portent quand même fondamentalement un ensemble de règles, de pratiques qui leur sont propres, mais qui les opposent bien souvent, presque entièrement, à tout point de vue, à l'emploi formel, si on le considère un peu dans l'entrée, travail décent, emploi productif, rémunérateur, bonnes conditions de travail, une forme ou une autre de protection sociale, et on est aux antipodes de tout ça lorsqu'on observe cette informalité. Alors, elle apparaît comme une forme dominante de mise au travail en Afrique subsaharienne, mais la question pour nous, souvent, c'est de l'aborder statistiquement. Et donc, si on veut aller chercher cette catégorie, si on veut s'intéresser à ces travailleurs et à ces entreprises, ces activités informelles, bah, il nous faut effectivement pouvoir les identifier clairement. Et c'est un des problèmes majeurs auxquels on est exposé, comme je disais, Jean-Philippe, tout à l'heure. Alors certes, il existe une définition des activités informelles qui est proposée par la Conférence internationale des statisticiens du travail, mais ces définitions officielles, elles offrent assez peu d'éléments concrets sur lesquels on peut s'appuyer pour identifier sans ambiguïté les activités informelles et pour délimiter, disons, l'informalité du travail. Et du coup, je reprends un peu ce que disait Jean-Philippe tout à l'heure, mais sur le terrain, pour les chercheurs, c'est souvent le pragmatisme, un certain pragmatisme qui prévaut, c'est-à-dire qu'on va essayer de minimiser les erreurs d'inclusion et d'exclusion en repérant les activités de petite taille, c'est un élément important d'un point de vue économique, non enregistrées officiellement. Donc là, on va se référer au fait que ces activités n'adhèrent pas ou ces emplois n'adhèrent pas aux réglementations locales du commerce, des activités économiques, du travail, de la fiscalité. Et donc, ça implique presque systématiquement des choix, des éléments un peu subjectifs, des choix du chercheur ou des analystes qui vont devoir contextualiser finalement ces critères de loi, en tout cas, ces critères d'adhésion aux réglementations locales pour identifier les activités informelles. Très souvent, nous ajoutons une troisième catégorie, et c'est de plus en plus le cas, qui va relever d'un critère de comportement entrepreneurial. Et c'était évoqué tout à l'heure par Jean-Philippe, la tenue d'une comptabilité standard, je crois que tu l'évoquais, Jean-Philippe, pour le Sénégal, hein, c'est ça, la tenue d'une comptabilité aux standards locaux est un élément qui permet effectivement de distinguer les activités qui ne sont pas réellement des entreprises formelles, dans lesquelles, par essence, on doit avoir une comptabilité. C'est l'élément minimal du fonctionnement ou du suivi d'activité d'une entreprise. Et par conséquent, l'absence de comptabilité est aussi considérée comme un critère d'identification des activités informelles. Comme Jean-Philippe le disait tout à l'heure, on va parfois décider qu'une activité est informelle si elle ne présente aucun de ces critères, c'est-à-dire ce n'est pas une grande activité, elle n'est pas enregistrée et elle ne tient pas à comptabilité, mais parfois ça va être du et ou, et ça va dépendre effectivement très souvent des analyses. Et donc du coup, c'est vrai que ça pose pas mal de problèmes, entre autres de comparabilité. Ça, c'est une vraie difficulté parce que d'un pays à l'autre, par exemple, mais aussi dans le temps, d'une enquête à l'autre, c'est parfois difficile de retrouver des méthodes d'identification des activités informelles qui soient parfaitement similaires. Et puis, il est vrai également que nous avons, quand on fait des études statistiques, des problèmes d'échantillonnage, tout simplement, c'est-à-dire de représentativité des échantillons qu'on va étudier, des entreprises qu'on va étudier. Et comme on n'a pas de base de recensement, ça se fait traditionnellement sur des bases de recensement d'activités, et comme ces activités, par essence, ne sont pas enregistrés, ben on n'a pas de base de recensement sur lesquelles se reposer, ce qui impose pour nous des méthodes un peu originales pour identifier des groupes d'entreprises qui soient représentatifs de l'ensemble des terrains étudiés. Et puis le dernier problème dont je voulais parler dans ce point, c'est vraiment la question de la mesure de l'activité. L'absence de comptabilité est extrêmement répandue dans les activités informelles, et pour nous, on a besoin de. Pour étudier l'activité économique de ces entreprises et la façon finalement dont elles génèrent des revenus hein, pour les ménages qui les conduisent, on a besoin de mesurer la capacité de ces entreprises à vendre des biens et des services, à produire, à gérer donc des chiffres d'affaires. On a besoin de mesurer la richesse qu'elles créent, ce qui est différent de vendre, créer de la richesse, c'est un autre concept. Donc on doit aller mesurer la valeur ajoutée de ces entreprises, on doit être en mesure d'établir les profits dont elles bénéficient. Et ça demande de reconstruire. Il y a un travail très important et très difficile. Et Jean-Philippe est un spécialiste de la question. Il l'a fait sur plusieurs terrains. Il y a un travail de reconstruction de comptabilité qui, à la base, n'existe pas, qui est assez complexe, assez passionnant, mais qui qui permet de comprendre à quel point il est difficile souvent d'étudier d'un point de vue économique ces activités. Quoi qu'il en soit, il est évident que l'informalité du travail est extrêmement répandue. Je voulais juste vous présenter ce tableau. Alors, il concerne essentiellement, uniquement, si je vois bien, des pays d'Afrique subsaharienne francophone, si je ne me trompe pas, ou d'Afrique de l'Ouest en tout cas. Mais il permet de voir que cet emploi informel, dans ses différentes définitions, hein, l'emploi informel, ou l'emploi dans les activités informelles, représente souvent à minima les deux tiers et bien souvent jusqu'à 4/5 de l'emploi total. Donc, c'est effectivement la forme dominante de mise au travail. C'est ce qui le rend si intéressant. Un rapide point sur cette question d'informalité par exclusion ou par choix. Ça a déjà été évoqué, je vais assez vite pour laisser place à la discussion, mais c'est vrai que les économistes font cette distinction en considérant que l'informalité par exclusion, elle vient du fait qu'un certain nombre... Donc, on l'a dit, les emplois formels sont rares par rapport à la population qui offre du travail, sur le marché du travail. Et donc, ces emplois étant rares, eh bien, il y a des barrières à l'entrée, il y a des barrières pour atteindre ces emplois. Et ces barrières, eh bien, ce sont des barrières qui font qu'on a besoin d'avoir un certain capital financier pour atteindre ces emplois, ou un certain capital humain, entre autres un certain niveau d'éducation, ou un certain capital social, des relations qui permettent d'accéder à ces emplois. Et que tous les gens qui ne franchissent pas ces barrières à l'entrée du secteur du travail moderne, pardon, du travail formel plutôt, eh bien, sont exclus donc, de ces activités et se retrouvent projetés par la force des choses dans l'informalité. C'est pour nous une partie très importante des individus considérés, mais il est vrai qu'on identifie très clairement un certain nombre d'acteurs qui procèdent à un arbitrage, à une analyse coût-avantage en ce qui concerne le positionnement, par exemple, d'une affaire d'un business dans le formel ou dans l'informel, et qui effectivement vont, via cette analyse coût-avantage, décider sciemment et en toute rationalité, en tout cas, pardon, rationalité en information limitée, mais ils vont prendre une décision qu'ils considèrent tout à fait rationnelle et qui va consister à rester au sein de ces activités informelles. Ça, on en reparlera très certainement aussi. Je voulais vous présenter un certain nombre de caractéristiques économiques des activités informelles. Je vais peut-être aller vite sur ce point. Je pense que ce n'est pas forcément le plus intéressant pour nous, mais juste deux points qui sont, à mon avis, vraiment importants. Le premier, c'est que quand on étudie ces entreprises, elles ont quelque chose de très particulier. C'est que très, très, très souvent, le financement de ces entreprises, en particulier du démarrage de ces entreprises, ne peut pas provenir des sources officielles habituelles, par exemple le crédit bancaire, ou tout simplement parce que ces activités, la plupart du temps, ne présentent pas les garanties nécessaires. Et au-delà de la contribution personnelle des individus qui vont lancer ces activités, la modalité de financement du démarrage de ces activités la plus fréquemment observée, eh bien, ce sont les dons de la famille ou des amis. C'est une source très fréquente de financement du démarrage de ces activités. Et ça implique quelque chose de très important, c'est que pèse sur ces acteurs de l'informel, et en particulier sur ces petits patrons de l'informel, une pression redistributive extrêmement forte qui décourage très souvent l'investissement productif. C'est-à-dire que les dons initiaux liés au démarrage de l'activité appellent bien souvent des contre-dons, qui peuvent être des contre-dons monétaires, mais aussi en termes d'emploi ou en nature, et qui pèsent effectivement de façon très forte sur ces activités et sur leur dynamique. Et si on s'intéresse à la dynamique de ces activités, encore une fois, d'un point de vue économique, on se pose, nous, la question de l'accumulation du capital physique, bon, c'est-à-dire de l'investissement dans ces entreprises, du fait d'acheter de nouvelles machines, d'agrandir l'activité, de la déployer, de la rendre plus productive, d'employer des travailleurs, etc. Et donc, cette question, elle traduit réellement la question de la dynamique de ces activités. Et ce qui est intéressant, c'est quand on étudie ça, on voit bien que le surplus qui est généré par les activités informelles sert d'abord, évidemment, à couvrir les besoins du ménage. C'est l'usage premier de ce surplus. Ensuite, il sert à la reproduction à l'identique de l'activité productive, entretenir le capital existant, acquérir de nouveau un stock, par exemple pour un commerce, acquérir des matières premières pour reproduire l'activité lors de la période suivante. Et puis ensuite, s'il reste encore du surplus, il est très souvent utilisé pour avoir des dépenses, disons des dépenses d'investissement dans le capital social, vers la famille, vers le groupe, vers la communauté, vers des dépenses de solidarité, de réseau, etc. L'usage suivant, c'est l'ouverture, s'il y a encore du surplus, d'autres unités informelles. On parle ici d'activités informelles qui marchent vraiment bien, qui génèrent beaucoup de surplus, dont on pourrait imaginer que peu à peu, elles s'agrandissent, elles investissent, elles ont un investissement productif et que donc elles vont devenir des activités de plus en plus formelles. Elles vont employer, elles vont avoir pignon sur rue. Et en fait, on constate qu'on a plutôt affaire systématiquement à une accumulation extensive, c'est-à-dire que bah, les entrepreneurs de l'informel, les plus, ceux qui réussissent le mieux, ceux qui ont le plus de succès, bah, ils vont avoir tendance à ouvrir d'autres petites activités, soit dans le même domaine, soit dans des domaines différents, soit dans le même endroit, soit dans des endroits différents, dans des quartiers différents. Et on parle, nous, d'accumulation extensive qui va disperser finalement l'informel et le faire grandir plutôt que de voir de l'accumulation intensive qui aurait tendance à faire grandir des entreprises et à les amener vers des choses plus structurées, plus, de plus grande taille et donc plus, plus formelles au sens où on entendait tout à l'heure. Un dernier point sur les grandes options de politique de l'informel, peut-être juste pour ouvrir le débat, je ne sais pas si on en parlera beaucoup, mais il y a eu quatre grandes familles finalement de politique de l'informel. C'est quelque chose qui a toujours interpellé les pouvoirs publics parce que ça concerne une proportion, on l'a vu, colossale des travailleurs, en particulier en ville. Et donc, ben, la première politique, elle est très simple puisque c'est une politique très libérale qui consiste à tout simplement à laisser faire. L'idée, c'est que finalement, un certain nombre de gouvernements s'accommodent très bien du fait que spontanément, les acteurs qui effectivement ne disposent pas ni d'emploi formel ni de protection sociale vont d'eux-mêmes générer leur propre activité. Et donc, on va laisser faire ce secteur social spontané et puis on va accepter le niveau de vulnérabilité important qui peut y exister, en particulier du fait de la faiblesse des revenus et puis de la vulnérabilité des travailleurs. Une première politique, si on peut dire, puisqu'en l'occurrence, on ne fait rien. Les deuxièmes grandes familles de politiques, ça a été les politiques répressives, où là, on a une approche de l'informel qui consiste à dire que les activités informelles, alors il est très rare qu'elles portent sur l'ensemble des activités informelles, mais plutôt sur des secteurs assez particuliers. Mais là, on va considérer tout simplement les activités informelles comme un secteur parasite, comme des activités parasites qui viennent concurrencer de manière indues les activités formelles, et donc on va avoir une politique répressive, consistant à chasser les activités informelles ou à empêcher qu'elles viennent concurrencer les activités modernes. Donc ça peut exister dans certains domaines, comme par exemple les taxis. On a eu plusieurs exemples récents sur les taxis, ces luttes entre les taxis informels, illégaux, disons, et puis les autres. Pendant les périodes d'ajustement structurel, ça a été évoqué tout à l'heure, on a eu beaucoup de politiques dites de formalisation par le bas qui consistent tout simplement qui considèrent que l'existence de l'économie informelle résulte tout simplement d'une réglementation excessive des marchés, une réglementation excessive des affaires, une réglementation excessive du travail, une fiscalisation excessive qui fait que les coûts de la légalité, sont extrêmement élevés, de sorte que finalement, les entreprises sont informelles parce que c'est beaucoup trop coûteux en temps, d'un point de vue monétaire, mais aussi en temps, en démarche administrative, d'être une entreprise enregistrée régulièrement. Et donc ici, ben, on a eu affaire à beaucoup de politiques de déréglementation, de dérégulation hein, du système du droit des affaires, du droit du travail, de la fiscalité des entreprises, etc. Et donc, on a parlé alors de formalisation par le bas. On a beaucoup vu ça pendant les périodes d'ajustement structurel ou à la suite des programmes d'ajustement structurel avec des impacts sociaux souvent assez, assez violents. La famille de politiques la plus populaire, disons, dans les périodes récentes, ce sont les politiques de formalisation par le haut, dans lesquelles, pour lesquelles l'objectif essentiel est d'essayer de promouvoir les entreprises informelles et de les élever, entre guillemets, au statut d'entreprise formelle. Ça passe par des politiques de soutien financier pour l'accès au capital, par exemple, de la formation, entre autres de la formation à l'entrepreneuriat. Ce sont des politiques de soutien à la demande à ces entreprises. Et puis, beaucoup de politiques, finalement, d'information, à la fois sur les coûts de l'illégalité, qui sont très souvent très mal perçus par les acteurs de l'informel, donc de l'information sur les coûts de l'illégalité, et puis de l'information sur les bénéfices de la légalité, qui sont eux aussi assez souvent méconnus. Et donc, c'est tout ce ensemble de politiques qu'on caractérise de politiques de formalisation par le haut. Voilà pour ces grandes options de politique. Je suis allé très vite, mais je pense que le plus intéressant, c'est une discussion. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop long. Et voilà, j'en ai fini pour ce passage.
Bon, je vais essayer d'être bref. Alors, je sais que j'étais à la bonne école avec François sur le côté synthétique, bien présenté de manière efficace, mais depuis 10 ans que je suis à Sciences Po, j'ai quand même un peu perdu la pratique de la synthèse. Je ne vais pas forcément répondre de suite à la commande là, sur le côté très empirique, parce que je voulais démarrer d'abord par un cadrage théorique et conceptuel pour bien resituer ces réflexions sur les questions de coordination, où elles se situent. Voilà. Pour revenir sur l'articulation économie-institution et voir comment la question de l'informel se pose dans ce cadre théorique. Et après, il y avait deux angles, et je vais aller du coup, j'irai assez vite, qui sont un peu en continuité, même si c'est des terrains différents et que c'est ce que je vous présente, c'est à la fois des travaux existants, passés, etc., mais en même temps, tous les points aveugles que j'ai, qui sont à combler par la suite, quoi, en termes de projets de recherche et de réflexion. La réflexion dans laquelle moi je me situe, ou le cadre théorique, moi je suis très polanien en fait, dans ma manière de définir ce que c'est que l'économie. Et donc chez Karl Polanyi, je ne vais pas alors passer trop de temps parce que ce serait long, mais chez Karl Polanyi, l'économie c'est défini comme un procès d'interaction entre les humains entre eux et la nature, qui demande une certaine régularité et stabilité pour pouvoir effectivement assurer la subsistance de l'humanité. Historiquement, il considère que ça a été résolu de manière différente dans l'histoire, mais aussi dans l'espace, par l'administration domestique, la réciprocité. Les deux sont souvent assimilés d'ailleurs dans ces travaux, avec un côté beaucoup plus horizontal. Et donc là, on retrouve les mécanismes de don contre don évoqués auparavant, les choses sur lesquelles a travaillé Marcel Mauss. La redistribution, le côté beaucoup plus hiérarchique, un centre qui centralise, redistribue, et l'échange marchand. Et ces trois-là sont la particularité du capitalisme, évidemment, c'est que l'échange marchand est devenu dominant à partir du moment où il a commencé à être le mode de régulation du foncier, de la terre, du travail et de la monnaie. Ce qui est intéressant, moi, ce que je retiens aussi, c'est que chez lui, chacune de ces on va dire de circulation des biens et services repose sur des modes d'organisation sociale différenciés, que ce soit l'unité domestique d'un côté, par exemple, le clan, la tribu, je sais pas, la chefferie, l'État, ou des droits de propriété individuelle, les contrats, etc., pour que l'échange marchand fonctionne, par exemple. La particularité de l'échange marchand étant que, et c'est la particularité de l'avènement du marché et du capitalisme, étant que c'est la première fois dans l'histoire où on avait un système de normes et d'institutions designées spécifiquement pour l'échange, pour la circulation des biens et services. Alors qu'auparavant, jamais les règles et les normes des institutions domestiques, communautaires, n'étaient spécifiquement designées à la question de la circulation des biens et services. Elles l'assuraient, mais parmi tout un tas d'autres choses, comme mode de régulation. Donc, une fois qu'on a positionné ça, il y a deux questions, il y a deux manières de travailler. Soit on s'interroge sur est-ce que l'informel, c'est de l'échange marchand, ou est-ce que l'informel, c'est de l'administration domestique ou la réciprocité? Quels sont les objectifs? Alors, c'est très, très compliqué. On aurait une lecture verticale pour savoir si on quel est le poids dans les capitalismes contemporains. Alors, on rejoint des réflexions sur la variété des capitalismes, par exemple, sur est-ce que, voilà, bon, c'est une première réflexion qu'on pourrait avoir. Et je vous l'ai dit, l'informel rural, évidemment, relève beaucoup plus, j'imagine, de logique d'administration domestique et réciprocitaire que seulement marchande. L'informel urbain, c'est peut-être un peu différent. Moi, la question que je me pose, ce n'est pas celle-là. Alors, elle existe dans la littérature. La question que je me pose, elle est plus horizontale. C'est les supports, les dispositifs institutionnels sur lesquels repose l'activité économique. Et ce que j'étudie, c'est les réseaux. Le point de départ, c'est les réseaux de relations sociales, les interrelations personnelles, comme un support qui permet l'échange marchand, mais qui permet aussi la redistribution clientéliste, si on le veut, ou qui permet aussi la réciprocité, évidemment. Du coup, je ne me pose plus trop la question de savoir si on est dans la réciprocité ou dans l'échange marchand. Je me pose la question de savoir sur quel support institutionnel et quel est le rôle des réseaux, quelle forme ont ces réseaux, qui permettent l'organisation et la pratique courante d'une activité économique, ici informelle. Sachant qu'évidemment, quand on est dans l'informel, on peut supposer que, d'une part, parce qu'on est dans l'informel, on n'a pas accès au système, aux institutions formelles, et bien souvent, sur les terrains où on est, ils sont pour partie défaillants, les systèmes judiciaires, etc. Donc, même si on y avait accès, ce serait probablement très coûteux d'y accéder et très compliqué. Donc, en fait, on n'y recourt pas ou très, très partiellement. D'où l'accent sur les réseaux de relations sociales dans le fonctionnement. Donc, c'est pour ça que c'est de l'encastrement, et je dirais de l'encastrement, j'ai mis et s'étaye de l'encastrement, étayage. Voilà, sur quoi s'étayent les activités économiques pour fonctionner. Et on sait que les réseaux sont très utiles aussi pour des activités formelles, hein, ça n'enlève rien au fait que. Mais c'est plus important probablement dans, quand on n'a pas accès à d'autres dispositifs institutionnels. Donc, ce faisant, je suis dans tout ce champ de littérature qui dit finalement, peu importe, hein, formel, informel, je rentre pas. C'est pour ça que du coup, j'ai laissé de côté depuis très longtemps ce débat formel, informel, et ce séminaire m'a replongé dans des lectures, justement, ce qui était intéressant d'ailleurs, de la pertinence de la catégorie, pour m'intéresser moi sur, uniquement, et c'est ce que j'ai fait dans ma thèse, ce qu'on a fait avec François par la suite, et ce qu'on continue à faire souvent, sur comment fonctionnent ces activités, en fait, comment fonctionnent ces activités-là. À la remarque près, toutefois, là, j'accepte la critique. Hein, à la remarque près, que oui, à un moment donné, bah oui, pour les étudiants, on va quand même définir ce qui est formel ou pas. On va quand même donner une délimitation statistique, et donc dans nos échantillonnages, on va réincorporer cette dimension-là. Et bien souvent, en tant qu'économiste, on va quand même réincorporer nos grilles d'analyse plutôt fondées pour comprendre l'échange marchand, pour étudier ces activités économiques, par des fonctions de production, par des dynamiques productives qui sont quand même inspirées qui sont pour partie discutables, mais qui ont quand même leur vertu, à mon avis, heuristique. La chose. Donc voilà, donc il n'y a pas d'absence de régulation, il y a des régulations qui sont différentes, qui sont négociées. Alors moi, la grande limite, c'est que dans le négocier, pour l'instant, on s'en tient, je l'ai dit, aux acteurs de l'informel, les entrepreneurs, les employés. Je pense qu'une étape supplémentaire, c'est de voir effectivement l'informel de l'autre côté de la relation, notamment quand on regarde les agents administratifs, etc., que ce qu'eux, ils font aussi, des acteurs de l'informel. Donc les réseaux, comment on les définit? Alors je vais pas, j'arrive pas à avoir le temps sous les yeux, mais je pense que je risque d'être un peu long. Alors c'est des travaux faits dans ma thèse, continué ensuite avec François et d'autres collègues également. On a beaucoup de choses là-dessus. Pour l'instant, on a travaillé sur ce qu'on appelle des réseaux plutôt égocentrés, c'est-à-dire reconstituer l'entourage relationnel d'un entrepreneur. Comment il accède à ses ressources qui font fonctionner son activité, que ce soit des ressources tangibles, matérielles, que ce soit un coup de main, que ce soit du crédit financier, que ce soit des fournisseurs, des clients, etc., ou immatériel, du conseil, un intermédiaire pour recruter quelqu'un, etc. Et donc, on recartographie comme ça l'entourage relationnel, ce qu'on appelle le réseau égocentré, ce qui vous permet de l'avoir d'information ensuite, on collecte de l'information sur qu'est-ce qui se passe dans ce lien-là, quelle est la nature du lien, quelles sont les ressources qui y circulent, quelle est la force, qu'on appelle la force du lien, en termes d'ancienneté du lien, de fréquence des interactions, de degré de confiance, par exemple, et qui est au bout du lien. Mais tout ça est cité et raconté par l'entrepreneur qu'on interroge. Hein, on est dans des techniques statistiques assez balisées d'enquête par entretien sur des échantillons représentatifs. Ce qu'on ne fait pas, c'est d'aller voir, ici, par exemple, hein, c'est donc un couturier, on ne va pas voir finalement le directeur là, des finances de l'école de police qu'il a en contact et lui permet probablement de si je m'en souviens, de fabriquer des maillots, des maillots de sport, etc., pour l'école de police, par exemple. Ça, c'est le réseau, c'est à Bobo du Lasso, donc c'était mon terrain de thèse. Mais une fois qu'on a ça, on peut du coup à la fois caractériser et puis en étudier aussi l'influence que ça peut avoir sur la dynamique ou les performances de l'entreprise. Donc, ce que j'avais fait, c'était de faire ça à la fois dans une dimension un peu plus temporelle, par du qualitatif, des entretiens, des récits de vie, que je recodais après sur toutes les séquences d'accès aux ressources, pour regarder par exemple ce qu'on a ici, comment on accède à ces ressources aux différentes étapes de l'activité entrepreneuriale, avant d'avoir créé mon business, au moment où je l'ai créé, les 2-3 ans dans lesquels je suis au démarrage, et après, et qui je mobilise? Est-ce que je mobilise des relations personnelles? Est-ce que c'est du bouche à oreille, des relations diffuses, ou est-ce que je mobilise des institutions plutôt collectives, une banque, une association, une coopérative, etc. On voit effectivement que, grosso modo, l'essentiel des ressources acquises dans des trajectoires entrepreneuriales, là, on avait à peu près 300 séquences d'accès aux ressources sur une quinzaine d'entretiens, c'est du relationnel, essentiellement. Il y a très, très peu de dispositifs collectifs institutionnels mobilisés pour accéder aux ressources. Un peu plus après la création, beaucoup plus avant la création. François l'avait évoqué tout à l'heure, notamment, sur les aspects financement, mais pas que, hein, un tas de ressources très opérationnelles, avoir un logement, etc., quand on bouge, etc., qui sont mobilisées par le relationnel. Quel type de relation on mobilise? On retrouve un résultat un peu classique dans la littérature sur le rôle des réseaux, qui peut renvoyer à ce que François évoquait tout à l'heure sur les enjeux autour de la pression, de la redistribution, et le fait que plus une activité se développe, plus souvent c'est associé à une forme de découplage, où la famille a été importante dans le moment, dans le démarrage, ou avant la création, et plus ça va, plus on découple, on se crée de nouvelles sphères de sociabilité professionnelle, de nouveaux réseaux, beaucoup plus affairistes, on va dire, professionnels, et finalement moins enchâssés dans le collectif familial ou voire villageois lorsqu'on est sur des trajectoires de migration rurale urbaine. Donc voilà, donc au démarrage, près de 63% des ressources sont acquises par des relations familiales. Après, un peu moins de la moitié sont acquises par des relations professionnelles. Donc là, on est sur une approche un peu voilà, dynamique dans le temps. Si on regarde la même chose en statique, à un moment donné, au moment où je fais l'enquête, en statique, en fonction de l'âge de l'activité, qui est-ce qu'on mobilise ? Eh ben, on mobilise effectivement beaucoup de relations familiales, hein, que ce soit proche, élargie, éloignée. Là, bon, je ne rentre pas dans la définition des catégories, mais à peu près 20%, beaucoup d'amis, une vingtaine de pourcents, mais surtout beaucoup de relations d'affaires. Et là, on a une idée préconçue sur la question des réseaux. Alors, on est en milieu urbain, on est à Bobo du Lasso, on est dans un moment déjà à l'époque hein, où les villes secondaires sont un des bras armés de l'urbanisation en Afrique subsaharienne, dans beaucoup de situations. On a une idée préconçue que le réseau social, c'est le réseau de la communauté, de la famille, etc. Et en fait, quand on, et que donc les relations d'affaires sont des relations enchâssées dans des logiques familiales. Pourtant, puisque chaque relation pouvait être qualifiée de plein de manières, quand on regarde est-ce que les relations d'affaires sont aussi des relations familiales ou pas, vous apercevez que bah, pas tant que ça, hein, c'est surtout des relations d'amitié, de connaissance, de collégialité, et pour partie, les entrepreneurs les considèrent comme étant des relations d'affaires strictes. Des relations de business. Donc, dans l'informel, on est enchâssé dans des réseaux, mais pas que dans des réseaux de collectifs intrafamiliaux ou extra ou communautaires. Ça, c'est un point qu'on a par la suite creusé avec François dans un article là, en essayant de dresser une typologie des réseaux. Et on s'apercevait que bah, cet archétype qu'on a en tête et qui est présent aussi dans l'analyse des réseaux, entre ce qu'on appelle un réseau fermé, très dense, où tout le monde se connaît, très communautaire, où la pression sociale va s'exercer, où les normes, du coup, on va être respecté par la pression sociale. On l'oppose souvent à un autre réseau, qui est le réseau ouvert, avec des gens bien placés dans la hiérarchie sociale, très diversifié. Bah, nous, on a trouvé deux autres formes de réseaux, qui étaient ce qu'on a appelé un réseau urbain de solidarité. Vous aviez beaucoup de liens forts, beaucoup de liens familiaux, mais pas tant que ça de pression, pas tant que ça de densité. Quand on dit densité, c'est que tout le monde se connaît, en fait. Hein, donc, vous ne pouvez pas faire une chose sans que l'autre sache que vous avez... Que vous l'avez faite. Donc, on avait ce type de réseau-là et on avait un réseau aussi d'affaires très horizontal, avec des liens d'affaires, avec des acteurs de l'informel, etc., qui était porté souvent par des entrepreneurs ayant connu une trajectoire de migration depuis le milieu rural, qui traduisait une forme d'insertion sur le marché local qui passe par la construction d'un réseau d'affaires qui n'est pas du tout connecté ses origines communautaires, familiales, villageoises. Et je trouve que c'est ces deux réseaux intermédiaires qu'on a trouvés qui avaient les impacts les plus significatifs sur les performances des activités économiques. Donc, loin de l'idée que le réseau, notamment par excellence, qui est le réseau avec des gens bien placés dans la hiérarchie sociale, soit le plus efficace. Ce n'est pas le cas. Il y a plein d'interprétations possibles. Le qualitatif était très intéressant là-dessus. C'est pour ça que je dis qu'il y a un point aveugle pour l'instant. Moi, qui m'intéresse, c'est d'aller à l'échelle supérieure et de voir qui est au bout de la chaîne et d'interroger cette personne-là et voir comment cette personne-là aussi connecte à d'autres. C'est ce que je fais dans d'autres travaux, mais pas sur l'informel pour l'instant. C'est une autre technique d'analyse de réseau. Mais une illustration, c'est qu'en réalité, les liens que vous avez avec des gens bien placés dans la hiérarchie sociale sont des liens de patronage et de clientélisme et qui, pour la plupart du temps, vont au contraire être très contraignants et donc vont se convertir très rapidement dans des liens de soumission, en fait. Et donc, votre possibilité, j'ai plein d'histoires en Cali où on voit l'entrepreneur ne pas pouvoir changer de fournisseur parce que c'est quelqu'un de la famille ou c'est quelqu'un qui l'a aidé au démarrage, alors qu'il a d'autres opportunités d'affaires bien plus intéressantes à côté, mais qu'il est coincé dans cette dette qu'il a vis-à-vis d'un membre de son réseau plus proche ou familial. Alors, évidemment, une fois qu'on a... Je vais très vite, hein, je suis désolé. Hein. j'ai envie de dire que c'est presque naturellement, mais ce n'est pas vrai. Hein. C'est des opportunités qui ont fait que j'ai basculé sur la question du numérique. Mais évidemment, quand on voit le réseau comme un dispositif de coordination permettant l'organisation de l'activité économique, on voit qu'il est inégalement distribué, avec donc des effets différenciés sur les dynamiques et trajectoires ou performances des activités-là. On se doute que le numérique est quelque chose, et le téléphone mobile est quelque chose qui va impacter assez nettement la question de la coordination, la question de ces réseaux-là. On a une hypothèse souvent, alors qu'il à vérifier, hein, qu'il est de penser que le numérique allait permettre à tout le monde d'accéder à des relations extrêmement diversifiées, modifier les dispositifs relationnels, les configurations des réseaux et améliorer l'efficacité des entreprises ou du fonctionnement des marchés, si on veut le dire comme ça. Alors la question du numérique, on l'aborde sous différents angles. Je ne vais pas tous les appréhender. Le premier point que je voulais rappeler, c'est que ce côté, si j'ai dit disruption numérique, hein, c'est à dessein, hein, économie informelle disruptée, il y a quand même quelque chose de très spécifique à l'Afrique subsaharienne sur la rapidité avec laquelle le téléphone mobile et maintenant les connexions Internet, même si des grandes disparités de situation se sont produites depuis le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a ce qu'on appelle un leapfrog technologique qui est tout à fait inédit et qui concerne le continent africain. Vous avez différentes statistiques, je ne vais pas les résumer. Peut-être rappeler juste celle-ci, hein, sur les comptes mobiles, puisque c'est la success story souvent mise en avant, effectivement, sur que ce soit M-Pesa ou presque 400 millions d'abonnés à des comptes de paiement mobile. Et là, on a vraiment quelque chose de très, très, très spécifique à l'Afrique subsaharienne, à la fois du côté de l'offre, puisque c'est une offre spécifiquement africaine, et à la fois du côté de la demande, en termes d'usage du téléphone mobile comme moyen de paiement. Nous, ce qu'on fait, c'est essentiellement, donc on travaille sur Dakar, donc dans un projet de recherche qui incorpore le département de la recherche d'Orange. Il faudrait en discuter longuement. L'entrée est plutôt sur l'appropriation. Et qu'est-ce que fait le mobile comment les entrepreneurs s'approprient le téléphone mobile dans leur pratique et donc du coup justement dans leur façon de se coordonner par exemple sur le marché, si on veut dire comme ça. Pour aller vite, on a trois grandes fonctions. Si on regarde les usages professionnels du téléphone mobile, on sait qu'il peut être utilisé pour se coordonner avec d'autres acteurs en amont, en aval, fournisseurs, clients ou concurrents, partenaires. Il peut être utilisé pour se coordonner de manière plus multilatérale en allant chercher de l'information sur Internet, faisant de la promotion de son activité sur Internet. Voilà deux formes de coordination un peu différentes, très personnelles d'un côté, plus impersonnelles de l'autre. Il peut être utilisé pour payer, compte d'épargne, paiement, envoi, réception d'argent. Et il peut être utilisé pour gérer son activité en interne. Gestion des stocks, gestion des comptes, améliorer la comptabilité avec plein d'applications qui se développent sur ces questions-là. Donc, c'est ces trois fonctions qu'on a creusées sur le degré auquel les entrepreneurs les pratiquaient. Comment il les pratiquait, donc avec quelle intensité, quelle fréquence, avec quel type d'application, quel type en fait de technicité dans l'utilisation des fonctions, et qui nous a permis de collecter plein d'informations statistiques. Hein, donc on est sur un échantillon de 500 entreprises à Dakar. On pourrait discuter du degré de représentativité, etc. Ben, je passe ça sous silence pour le moment. Enquêter deux fois. En 2017, en 2019, et on a un mode d'espoir de retourner voir les entreprises qu'on va retrouver en 2021, on espère, ou peut-être l'année prochaine. Donc, on a deux vagues d'enquête. Alors, pas exactement le même questionnaire, on a un tronc commun, mais des nouveautés aussi qui ont été introduites. Ce que je vous présente là, c'est ce qu'on avait fait en 2017. Pareil, étudier des profils d'usage. Qu'est-ce que font les entrepreneurs? Est-ce qu'on a des profils types? Et oui, vous avez des profils d'entrepreneurs qu'on a appelés digitaux de l'informel, avec des usages très, très avancés. Vous avez toutes les variables ici. Est-ce que j'ai un smartphone ou pas? Est-ce que je fais de la coordination amont-aval? Est-ce que j'utilise Internet pour vendre mes produits, pour promouvoir mes produits? Est-ce que j'utilise le mobile money pour envoyer et recevoir de l'argent, etc., etc. Et donc, le profil en noir, là, c'est celui-là, c'est ceux qui font tout intensément avec plein de dispositifs, plein d'applications possibles. Puis, vous avez à l'opposé un tiers quand même de l'échantillon, ceux qui ne font pas grand-chose. Ils ont un téléphone GSM simple, ils n'ont pas de smartphone, pas de tactile. On va plutôt les retrouver dans l'informel qu'on a appelé de survie. Tout à l'heure, on a parlé de survie. Donc, des usages plutôt simples. Et entre les deux, certains qui sont des usagers très avancés sur la connexion Internet et qui vont promouvoir leur activité sur Internet. Et puis, les autres qui sont très, très avancés dans la coordination bilatérale, donc avec leurs fournisseurs et leurs clients. Et quand on regarde dans le temps, maintenant, c'est ça qui est intéressant, parce que si on parle de disruption numérique, il y a bien... Sur chacune des fonctions étudiées, entre 2017 et 2019, sur l'échantillon qu'on a retrouvé, on en a retrouvé 300. Et sur les 300 qu'on étudie, il y a bien une avancée sur toutes les fonctions utilisées. Appel professionnel quotidien, 50% en 2017, 66% en 2019. Mobile money à des fins professionnelles, 60%, 15 points de plus deux ans plus tard. Donc, la disruption numérique, elle est réelle. Maintenant, est-ce que cette disruption numérique produit des effets de disruption marchande, j'ai envie de dire, de transformation des structures marchandes et des marchés, c'est un autre problème. Donc les profils d'usage, on les voit, il y a des mobilités ascendantes très, très fortes. Pour aller vite, quelles que soient les méthodes qu'on a pu utiliser, on en a utilisé différentes, pour étudier, essayer à un moment donné de rentrer dans la corrélation entre usage, performance, voire la causalité, avec certaines techniques économétriques. Ce qu'on peut dire, c'est que ça permet de mieux se coordonner et donc de faire du chiffre d'affaires et de vendre. Le seul problème, c'est que la capacité à vendre, c'est bien, mais ça dépend essentiellement de l'état du marché. Le paramètre, donc, vous atteignez très, très vite un plafond de verre, en fait, sur ce que, le potentiel que le numérique peut vous apporter. Voilà, vous vous coordonnez mieux, vous allez vendre plus, mais la marge de progression sur la vente, elle est extrêmement limitée, en fait. Hein, le degré de concurrence est déjà tellement élevé, sauf à supposer l'émergence d'une classe moyenne très consommatrice. Alors, ça, c'est un autre débat, mais pour l'instant, on peut avoir des doutes là-dessus. Ce qu'on observe, par exemple, c'est qu'il y a très, très peu d'utilisation à des fins d'efficience interne. Gestion des comptes, transactions, etc., des stocks. Ça, c'est très, très peu utilisé et ça n'a pas changé. En l'espace de 2 ans, c'est très peu avancé. Alors, il y a des enjeux de barrières cognitives, de barrières financières, évidemment, qui sont en jeu. Donc, voilà, ça fait beaucoup de gains transactionnels, mais beaucoup moins de gains d'efficience interne pour les entreprises. Et donc, on avait soulevé les enjeux de productivité, par exemple. Finalement, ça n'y répond pas pour l'instant tant que ça. Un résultat étonnant, par exemple, c'est qu'on avait fait une segmentation de l'informel par type, informel de survie, ce qu'on appelle les top performers et les segments intermédiaires. Quand on regarde la structuration de l'informel entre 2017 et 2019, elle n'a pas changé. Il y a autant d'informels. Ceux qui étaient dans la survie sont toujours dans la survie. Ceux qui étaient top performers sont toujours top performers. Voire, ils sont même descendus. Donc, en fait, on a quand même l'impression d'une sorte de très forte stabilité structurelle de l'informel que le numérique, pour l'instant, ne change pas tant que ça. On est qu'au début, on a observé 2 ans, là, mais... Donc voilà. Quel impact ça a sur les réseaux? Je ne peux pas vous en dire beaucoup parce que j'ai pas. C'est vraiment un aspect qu'on n'a pas encore creusé. On a dans le questionnaire sur la deuxième année et un peu sur la première année, enfin sur la première vague d'enquête, on a des petits questionnaires de type qui permettent de reconstruire le réseau égocentré que je vous ai montré tout à l'heure là, sauf en se concentrant sur les contacts téléphoniques. En tant que professionnel, j'appelle les plus régulièrement sur mon téléphone et qu'est-ce que je fais avec de quoi je discute et effectivement à quoi ça me sert ces appels téléphoniques là. Donc, on a à peu près 4-5 contacts en moyenne par entrepreneur dans 1300 contacts. Je peux juste vous dire, voilà, on retrouve quelque chose d'assez cohérent. La moitié des membres de la famille, 46% de relations professionnelles, 31% de connaissances. Ça va au-delà de 100, hein, parce qu'on peut être famille et professionnel en même temps ou professionnel et connaissances en même temps. Sur les relations professionnelles, on a encore plus d'un tiers qui sont des relations professionnelles strictes. On va retrouver plus de relations professionnelles dans les entreprises qui réussissent mieux, etc. Donc cette corrélation entre découplage du réseau, du milieu familial et performance ou trajectoire de croissance, elle se vérifie. Ce qu'on sait dans la littérature, dans ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'effectivement, on attendait beaucoup du fait que le téléphone mobile permette de disrupter les intermédiaires, par exemple, et donc de modifier les positions de pouvoir sur les marchés. Ce n'est pas vraiment le cas, quoi. Ça, sur les marchés ruraux, etc., ça n'a pas forcément changé. Il y a pas mal de travaux là-dessus. Les positions de pouvoir des uns et des autres. Parce que oui, en ayant un téléphone, on peut accéder à l'information sans nécessairement passer par des intermédiaires. Mais pour l'instant, il n'y a vraiment pas de résultats confirmant cette idée de disruption des marchés. La question des interactions informelles, formelles se retrouve renouvelée. Je mettrai 2 angles, alors qui ne sont pas sur des choses sur lesquelles on travaille, hein, mais qui me semblent intéressants à noter. Le premier qu'on observe et qu'on comprend aisément, c'est la traçabilité des transactions par le mobile money. Plus il y a de transactions qui passent par le mobile money, plus elles sont traçables, plus elles sont même taxables, potentiellement. Vous avez aussi des choses assez peut-être plus inattendues, mais... il y a des travaux là, de Jean-Marc Josset et d'autres auteurs sur les casses automobiles en Côte d'Ivoire qui vous montrent comment effectivement les entrepreneurs constituent un répertoire photo de toutes les pièces qu'ils ont pour pouvoir vendre plus rapidement en ayant un répertoire photo. Mais un répertoire photo, c'est le début de la codification. On commence à coder des choses et à donner de la traçabilité. Donc, il y a un intérêt très, très fort des institutions internationales et des politiques publiques sur la question du numérique, parce qu'on voit bien effectivement que ça ouvre très, très, très clairement à la traçabilité des transactions qui auparavant opéraient en dehors du giron du formel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que c'est aussi ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je parle d'approche plus désagrégée de l'informel, peut-être plus par branche, c'est que l'articulation informelle-formelle se retrouve accélérée par le secteur du numérique lui-même. pas forcément que l'objet, le téléphone, mais tout l'écosystème des numériques, alors les écosystèmes très locaux, on appelle les Fab Labs, etc., qui se développent, les stratégies des grandes firmes, bon, M-Pesa typiquement, le succès d'M-Pesa, c'est d'utiliser des boutiquiers informels pour les utiliser comme petites banques, hein, avec quelque chose qui était illégal à l'époque, et aucune procédure judiciaire n'a pu débouter M-Pesa, qui avait un bon réseau politique, du fait qu'il y avait, malgré que ce soit avec des petits boutiquiers, il y avait une clause de non-concurrence, et donc vous distribuez M-Pesa et uniquement M-Pesa pour les boutiquiers informels. Donc, il y avait une clause de non-concurrence et d'exclusivité d'M-Pesa sur la distribution de son dispositif. Donc l'informel est dans les stratégies, ça c'est un bon exemple, dans les stratégies de grandes firmes multinationales. Et, la connexion informelle-formelle, elle est renouvelée clairement par la digitalisation, le secteur du numérique et tout ce qu'il y a autour du secteur du numérique. Voilà. Donc je m'arrêterai là en vous laissant voilà, quelques éléments de conclusion sur ce que je ne fais pas mais que j'aimerais faire, c'est-à-dire des approches plus désagrégées, donc moins sur des échantillons à grande échelle que des échantillons représentatifs à l'échelle d'une branche, d'un métier, d'un secteur, pour pouvoir capter tous les acteurs de la chaîne et faire du réseau, non plus du réseau égocentré, mais du réseau plutôt complet, pour avoir une structure du réseau et étudier les structures de marché avec différents acteurs, qu'ils soient, et du coup, en explosant, la distinction informelle-formelle ne tient plus. On étudie une branche d'activité, que ce soit dans la couture, que ce soit dans la métallurgie, et on essaye d'embrasser tous les acteurs économiques et politiques. Donc, à différentes échelles, ça permet de travailler sur les interactions et les continuums, comme ça, entre les acteurs. Et oui, c'est plus facile de faire ça dans une démarche pluridisciplinaire, probablement. Et le fait que je sois à Sciences Po et engagé dans des réflexions sur les questions des politiques publiques. Donc, je fais un petit coup de pub. Il y a un colloque sur faire des politiques publiques en Afrique le 28 et 29 juin qui se tient en présentiel et en numérique à Sciences Po Bordeaux, dans lequel j'interviens sur, à la fois sur des questions plutôt méthodologiques, sur l'analyse de réseau dans le mapping d'acteurs, et à la fois sur les politiques de l'emploi. Je rediscuterai de choses dont on vient de parler, mais aussi beaucoup d'entrepreneuriat, de politique pro-entrepreneuriale en ce moment. Voilà, je m'arrête là. Ça a dû être très très rapide, je m'en excuse.